Le journal, bonsoir Sébastien Pao.
Bonsoir à tous. Un deuxième grand débat dans le Lot et l'avertissement des maires. Les mots ne suffiront pas à mettre fin à la crise des gilets jaunes. Nous sommes à Souillac dès le début du journal. Cadenassé pour éviter aux manifestants d'approcher, vous les entendrez. Nous sommes aussi en Suisse où se trouve la société qui fabrique les controversés lanceurs de balles de défense. Peut-être une troisième mise en examen dans l'affaire Benalla, cette fois pour ses passeports et un possible faux document. L'ancien collaborateur de l'Élysée est entendu au Sénat lundi. Au sommaire également ce soir, sans doute un nouveau pilote chez Renault d'ici ce week-end. Des résultats toujours bons. Le shutdown qui crispe Trump et Nancy Pelosi aux États-Unis. Une affaire de harcèlement sexuel à la Fédération française de football. Hommage à Thomas Bernard au théâtre Déjazé à Paris. Et puis le temps du week-end, un peu de pluie demain et toujours froid. Il était déjà venu à Souillac il y a 2 ans, il était à l'époque en marche vers l'Élysée. Emmanuel Macron est donc de retour dans cette commune du Lot aujourd'hui pour le deuxième grand débat qu'il a voulu en réponse à la crise des gilets jaunes. Mais l'accueil n'est pas le même qu'en 2017. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
Le président est un peu plus sur le grill que mardi dans l'heure.
Et d'entrée, les règles ont été rappelées, la parole est libre. Christian Vanry, maire de Saint-Cirgue, ne s'est pas gêné. Lui qui a expliqué ne pas avoir de master en langue de bois, effectivement.
Monsieur le Président, autre chose. Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser. Parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension et de la violence. Nous avons eu Monsieur Sarkozy, casse-toi pauvre con. Nous avons eu Monsieur Hollande, l'escendant. Et vous maintenant, les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis? Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Mais faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus démunis.
Emmanuel Macron fera comme s'il n'avait pas entendu. La question qui est beaucoup revenue cet après-midi en Occitanie, c'est celle de la mobilité. Aurélie Corbineau est maire de Verdun-sur-Garonne.
Dans la zone périurbaine dans laquelle je suis, les trains pour se rendre à Toulouse le matin sont remplis à 200%. Les gens voyagent debout et parfois dans les toilettes du train pour se rendre au travail. Les voyageurs restent à quai dans les gares proches de Toulouse faute de place. Il va falloir continuer à investir massivement sur le rail pour rattraper nos trains de retard.
Voilà pour le petit lapsus. Sinon, au rayon des questions, il y a eu l'ISF, la loi NOTRe, les fermetures d'écoles en zone rurale. La maire de Montauban, elle, a évoqué l'immigration et elle a tout de suite fait le lien avec le terrorisme. Elle a été huée. Il y a aussi eu des questions sur les dotations globales de fonctionnement et les 80 km/h. 2h45 de questions. Emmanuel Macron a commencé à répondre, notamment sur ce point. Et visiblement, venir sur le terrain et voir par lui-même a eu du bon pour le président.
Ce que vous me dites, c'est au fond, moi, je sais mieux. Les endroits où on pourrait revenir à 90 et les endroits où il faut maintenir à 80. Je l'entends. C'est vrai que je suis passé sur certaines routes. On n'arrive pas à monter à 80 déjà. Hein. Donc elles sont descendues de 90 à 80. C'était symbolique. Là, c'est pas grave. Il y en a d'autres. J'ai compris que ça énervait davantage parce que on pouvait y aller un peu plus fort et que là, on pouvait monter à 85, 90. Bon. Bah, quand on est parmi vous quelques heures, on s'en aperçoit.
Ça a du bon donc, il répond depuis maintenant 1 heure. Une autre salve de questions est à suivre. Comme dans l'heure, il est bien parti pour rester de nombreuses heures. Record à battre, 6h40.
Alors bonne soirée Cyril Graziani, merci en direct de Souillac dans le Lot. Donc avec Marc Garvenès, pas de stationnement depuis hier midi dans cette ville. Manifestation interdite jusqu'à ce soir 23h et une grosse présence policière évidemment. Souillac c'est comme barricadé pour accueillir le débat et le chef de l'État. Une banderole Macron arrête tes macroneries, tu ne vas pas réussir à nous endormir avec ton grand débat, et quelques heures avec des dizaines de manifestants. François, gilet jaune, regrette cette ambiance qui l'empêche de s'exprimer. Il est au micro de Stéphane Iglesis.
Je suis surtout venu pour rencontrer les maires, pour leur rappeler les petites règles simples de bon sens, comme quoi nous on veut participer à la vie politique. Faut regarder l'évasion fiscale, faut faire payer des impôts aux GAFA, on veut récupérer de l'argent là où il y en a. Je pense qu'il a entendu tout ça, il fait comme s'il n'avait pas entendu, mais il a très bien entendu. Il fait la sourde oreille, ouais. Moi, j'ai parlé du RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne, où on permettrait au peuple de voter les grandes lois, les grandes orientations du pays, et qu'on ne donne pas un blanc-seing au gouvernement pendant 5 ans. Et en gros, c'est open bar et on fait ce qu'on veut. Si le vote blanc aurait été pris en considération, Macron ne serait jamais passé.
Près de 800 débats sont déjà listés sur la plateforme mise en place sur Internet par le gouvernement. Le président a prévu un déjeuner avec tous les présidents de conseils départementaux. Il rencontrera aussi des élus chaque semaine jusqu'au 15 mars. Et les 5 garants du grand débat sont maintenant connus. Ils étaient reçus ce soir à Matignon. Leurs portraits sont sur franceinter.fr. Le grand débat est sur les rails. La mobilisation des gilets jaunes toujours dans la rue, avec une nouvelle journée de mobilisation prévue demain, 10e samedi depuis le début du mouvement, il y a 2 mois. Des manifestations prévues à Paris, Lyon, Bordeaux, Dijon ou encore Toulouse, et même à Saint-Jean-de-Luz, Oyana Larsabal. Première manifestation depuis le début du mouvement qui n'inquiète pas les commerçants.
La manif des Gilets jaunes, c'est le sujet de conversation entre les commerçants de la rue Gambetta.
Oui, on en parle parce qu'on espère que tout va bien se passer, que ça sera pacifique.
Nolwenn tient un magasin de bijoux.
On s'attend à rien d'énorme parce qu'on se dit quand même que Saint-Jean-de-Luz, c'est plutôt calme. Les gens, normalement, sont plutôt respectueux ici, donc je pense que tout le monde va respecter les boutiques et les commerçants.
La mairie a envoyé un courrier à tous les commerçants situés sur le parcours.
On nous demande de rentrer les présentoirs pour libérer la chaussée.
Jocelyne Franck, gérante de la librairie.
Nous serons ouverts et on rentrera les présentoirs.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, cette manif ?
Pas vraiment, non.
La boutique d'à côté, en revanche, gardera le rideau baissé aujourd'hui.
Le gérant a décidé de ne pas prendre de risques et donc de fermer le magasin et de baisser ses grilles. Ce qui lui fait un peu peur aussi, c'est que d'autres villes vont venir ici, donc beaucoup de gens, de la masse, on va dire.
Des gens venus de l'extérieur.
Exactement. En fait. Il ne veut pas risquer la casse dans son magasin, donc il préfère fermer.
Contrairement à Fabienne.
Non. Je crains pas les gilets jaunes, moi je les soutiens à 200%.
La plupart des magasins resteront ouverts, brasseries, restaurants et autres cafés vont sortir leurs terrasses, peut-être pas les cendriers en revanche.
Reportage signé Oyana Larsabal de France Bleu Pays Basque. Alors on verra quelle sera l'ampleur du premier samedi des gilets jaunes depuis le début du débat. En attendant, les lanceurs de balles de défense sont toujours autant décriés. Les forces de l'ordre continueront à les utiliser où il y aura plus de blessés, répond le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner au défenseur des droits Jacques Toubon qui demande lui leur suspension. Plusieurs dizaines de blessés depuis le début du mouvement et beaucoup d'appels depuis plusieurs jours au siège de l'entreprise suisse qui fabrique CLBD. À Genève pour Inter, Jérémy Lange.
Vous êtes notre ennemi. Voilà le genre de message qui arrive au siège de Brugger et Thomé en ce moment. Mais un porte-parole l'assure, son lanceur LBD 40 n'est pas responsable des blessures infligées pendant les rassemblements des Gilets jaunes. Les coupables, ce sont plutôt les munitions utilisées par la police française. Des balles de moindre qualité, moins chères, moins précises et fabriquées par une entreprise américaine. C'est en tout cas ce que dit Brugger et Thomé, qui équipe par ailleurs d'autres polices en Europe, dont la police suisse. L'OTAN fait également partie de ses clients. Brugger et Thomé, qui emploie 70 personnes à Thun, près de la capitale, Berne, n'a pas l'habitude d'être sur le devant de la scène. Sauf en 2012, quand Amnesty International a dénoncé la vente par une société sud-africaine de munitions de l'entreprise suisse vers la République démocratique du Congo, alors en plein conflit armé. Brugger et Thomé a nié toute responsabilité dans cette réexportation. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et puis à Strasbourg, une seconde plainte a été déposée après les incidents de samedi dernier. La mère d'un adolescent de 15 ans blessé à la cuisse. Il pourrait avoir reçu un tir de balle de défense, comme un de ses copains touché lui au visage. Une enquête est ouverte.
Peut-être une troisième mise en examen pour Alexandre Benalla.
L'ancien homme de confiance d'Emmanuel Macron à l'Élysée est déjà sous le coup de 2 mises en examen pour des violences pendant les manifestations du 1er mai. Il devrait l'être ce soir dans l'affaire de ses passeports. Il pourrait l'être utilisé, ses passeports, pour aller notamment en Afrique après son licenciement. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
En attendant, que va changer cette possible mise en examen pour son audition de lundi au Sénat ?
Eh bien, sans doute l'exercice un peu plus délicat pour les parlementaires qui vont l'interroger. Ce qui est sûr, c'est qu'à 7h, son audition lundi après-midi est maintenue. S'il ne s'y présente pas, Alexandre Benalla s'expose à des sanctions pénales. Mais à partir du moment où il fait l'objet de poursuites judiciaires, autrement dit, s'il est mis en examen, les sénateurs ne peuvent plus lui poser certaines questions, celles qui entrent dans le champ de l'instruction, et ce, au nom de la séparation des pouvoirs. Le président Philippe Bas sera donc particulièrement attentif à la façon dont ces questions sont formulées. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but de cette commission d'enquête, ça n'est pas de déterminer si l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron a commis une infraction, ça c'est le travail de la justice, mais d'établir s'il y a eu des manquements du côté de l'Élysée, du côté du Quai d'Orsay, du ministère de l'Intérieur, autour de la restitution de ses passeports et du téléphone crypté qu'Alexandre Benalla a, semble-t-il, pu conserver.
L'Aurélie Carrive, 14 personnes renvoyées aux assises pour les attentats de janvier 2015, 17 morts dans les locaux de Charlie Hebdo, à Montrouge et dans l'Hypercacher, 14 personnes mais trois dans la nature, dont la compagne d'Amédie Coulibaly. Le procès pourrait se tenir en 2020. L'enquête se poursuit sur les soutiens des frères Kouachi, notamment au Yémen. Les sociétés de Bernard Tapie placées en redressement judiciaire, la justice rejette le plan de remboursement de l'homme d'affaires, 404 millions d'euros accordés en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais, puis annulé. Tapie avait placé ses sociétés en sauvegarde en 2015, juste avant sa condamnation à rembourser. Pour éviter la saisie, il sera jugé en mars.
Renault s'apprête à changer de pilote, mais reste le premier constructeur français dans le monde.
Pour la troisième année de suite, la marque aux losanges, encore présidée par Carlos Ghosn, a vendu 3 880 000 voitures l'an dernier. C'est 6 530 de plus que PSA. Bonsoir Maxime Debs. Qu'est-ce qui explique cette bonne santé?
Alors, symbole de cette réussite, la nouvelle Clio, mais aussi et surtout les modèles à bas coût développés, notamment avec Dacia. Il s'en est vendu beaucoup en France, mais aussi dans les pays émergents. On peut dire que le low cost si cher à Carlos Ghosn a tiré le constructeur vers le haut cette année. La marque Renault qui revendique également le premier rang européen sur le créneau des voitures électriques, plus 36% de ventes l'an dernier.
Il pourrait y avoir du changement à la tête de Renault ce week-end.
Ouais, Carlos Ghosn qui pourrait être démis de ses fonctions assez rapidement. PDG de Renault, c'est le dernier mandat qui lui reste. En tout cas, il a clairement été demandé aujourd'hui aux administrateurs salariés d'être disponibles ces tout prochains jours, dimanche compris, de là à confirmer la tenue d'un conseil d'administration des dimanches soirs. Comme c'est évoqué de-ci de-là, la direction de Renault s'en garde bien, mais on sent bien que les choses s'accélèrent. Cette semaine, Bruno Le Maire s'est officiellement désolidarisé de Carlos Ghosn. De son côté, un acteur du dossier de s'impatienter, il serait de bon ton maintenant que cette affaire soit soldée pour de bon.
Maxime Debs, chez Ibiden à Courtenay, dans le Loiret, on fabrique des filtres à particules pour les moteurs diesel, mais le groupe japonais confirme qu'il va fermer son usine face à la baisse des ventes de ce type d'auto. Le site emploie plus de 300 personnes. Aux États-Unis, Tesla annonce qu'il supprime 7% de ses effectifs pour commercialiser plus rapidement son nouveau modèle. Le patron Elon Musk ne donne pas de chiffres sur le nombre d'employés concernés. Les États-Unis toujours paralysés par le shutdown depuis maintenant 27 jours. L'impasse budgétaire concerne 800 000 employés fédéraux qui ne touchent plus leur salaire. Il y a eu l'image de Trump entouré de dizaines de cheeseburgers à la Maison-Blanche pour recevoir des joueurs de football américain, puisque les cuisines de la Maison-Blanche sont fermées. Il y a maintenant la passe d'armes avec Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, troisième personnage de l'État. Passe d'armes, Grégory Philippe, sur fond de déplacements pas encore annulés, pas encore annoncés et déjà annulés.
Nancy Pelosi a demandé à ce qu'on reporte le discours sur l'état de l'Union que le président américain doit prononcer normalement le 29 janvier prochain devant le Congrès réuni. En réponse, Donald Trump a fait annuler le voyage que prévoyait la présidente de la Chambre des représentants en Europe et en Afghanistan au motif que le shutdown ne permettait pas d'avoir recours à un avion militaire faute de budget et de personnel. Hier, le déplacement a été annulé à la toute dernière minute alors que Pelosi et une vingtaine d'élus étaient déjà dans le bus au Capitole pour aller prendre cette avion. Cette paralysie partielle des administrations tourne de plus en plus au bras de fer entre le président et la speaker de la Chambre. Nancy Pelosi, troisième personnage de l'État, est en position de force. Les démocrates sont désormais majoritaires à la Chambre des représentants et n'ont aucune envie de céder aux exigences de la Maison-Blanche et de financer ce mur à la frontière mexicaine. D'autant plus que lorsqu'on interroge les Américains dans tous les sondages de ces derniers jours, c'est le président qui est tenu responsable de ce shutdown et pas l'opposition. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Donald Trump qui est aussi potentiellement menacé par une femme en Russie, une escort girl bélarusse expulsée de Thaïlande vers Moscou hier et qui affirme détenir des secrets sur le rôle de la Russie dans les élections américaines. Claude Brouillot, elle a côtoyé dans le passé des oligarques et des hommes politiques russes qui apparaissent à des degrés divers dans cette enquête.
Cheveux châtain foncé et visage d'ange, Nastia Rubka, de son vrai nom Anastasia Avashukievitch, s'est rendue célèbre une première fois en apparaissant sur des photos et vidéos en très bonne compagnie en 2016 sur le yacht d'Oleg Deripaska, à l'époque le tout-puissant patron de Rosalu, le consortium russe de l'aluminium. L'oligarque alors a pour particularité d'être à la fois proche de Vladimir Poutine et associé en affaires avec Paul Manafort, un des anciens directeurs de campagne de Donald Trump. Ce jour-là, sur le yacht de Deripaska, la belle Nastia voisine également avec un certain Sergueï Prikhodko, alors vice-premier ministre, et surtout considéré comme un des inspirateurs de la diplomatie russe. Lors de son arrestation en Thaïlande, Nastia affirmait être le chaînon manquant de l'enquête russe aux États-Unis avant finalement de se rétracter. Arrêté manu militari hier, en pleine zone de transit de l'aéroport moscovite de Cheremetyevo, la jeune escort girl belarusse est aujourd'hui en détention, officiellement impliquée dans une enquête pour proxénétisme. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, Laurent Gbagbo reste en détention au moins jusqu'au 1er février, tout comme Charles Blé Goudé, l'ancien chef des jeunes patriotes, allié du président ivoirien. Les deux hommes acquittés mardi par la Cour pénale internationale restent en prison jusqu'à l'examen de l'appel déposé par les procureurs de la CPI. L'audience est programmée dans 2 semaines. La présidentielle aura lieu le 18 avril en Algérie. Les candidats ont maintenant jusqu'au 4 mars pour se déclarer. On verra si l'actuel président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, est victime d'un AVC en 2013, se lancera pour un 5e mandat. Et puis bilan revu à la hausse à Bogota, 21 morts, 68 blessés dans l'attentat d'hier contre une école de police de la capitale colombienne. Les autorités soupçonnent la guérilla de l'armée de libération nationale.
Une affaire de harcèlement sexuel à présent à la Fédération française de football.
Une ancienne salariée accuse l'un des directeurs financiers de harcèlement et de tentative d'agression sexuelle, d'après Mediapart. Une plainte a été déposée, Sébastien Hazard, à un dossier ouvert au prud'homme.
Il s'agit d'une jeune femme de 25 ans. Elle a travaillé une vingtaine de mois au sein de la fédération, d'abord comme stagiaire, puis en alternance, enfin en CDD jusqu'en novembre. Et selon son avocate, par deux fois, le directeur financier aurait tenté de l'embrasser en la prenant par les épaules ou en lui tirant les cheveux, d'abord lors d'un pot au travail, puis cet été à Moscou durant le mondial. Son avocate évoque également des gestes à connotation sexuelle de manière répétée. L'inspection du travail a déjà mené des investigations. Dans ses conclusions, l'inspection indique qu'au moins une des deux tentatives de baiser forcé dénoncées et corroborées par des témoins parle même d'un comportement dépassant largement le cadre de la familiarité. La fédération, elle, rejette en bloc toutes ces accusations, met en avant sa propre enquête interne menée en auditionnant une vingtaine de personnes, mais reconnaît néanmoins l'existence de propos inadaptés. Le salarié en question a d'ailleurs été rappelé à l'ordre. Mais ce n'est pas tout, les deux parties s'opposent également au prud'homme. Cette jeune femme estime avoir été évincée de son poste, ce que dément également la Fédération française de football.
Deux Français sur le podium du combiné de Wengen en Suisse qui compte pour la Coupe du Monde de ski. Le tenant du titre Victor Muffat-Jandet est deuxième derrière l'Autrichien Marco Schwartz et devant Alexis Peintureau. Enfin du théâtre, pour terminer, avec un classique en ce moment au théâtre Déjazet à Paris, le dramaturge autrichien Thomas Bernhardt. 30 ans après sa mort, le comédien André Marcon interprète le faiseur de théâtre, l'histoire d'un acteur misanthrope, Stéphane Capron, en tournée avec sa famille dans de petites salles en Autriche.
Dans ce théâtre Déjazet mythique qui a servi de lieu de tournage au film Les Enfants du Paradis de Carnet, Christophe Perton a créé un décor magnifique. Il prolonge la salle sur la scène et comme dans un effet miroir, le public a l'impression d'être dans les coulisses du spectacle. La plume de Thomas Bernhardt est paradoxale. Il dit à la fois son amour et sa haine pour le théâtre. André Marcon incarne avec brio ce comédien bougon, misogyne, qui déteste tout ce qui l'entoure.
Il est quand même un champion en toute catégorie de la misanthropie, de la vitupération, de la détestation de tout et de tous, mais avec tellement de comique, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il est attachant, ce bonhomme.
Même s'il y a d'autres personnages dans la pièce, ils ne disent pas grand-chose. Tout repose sur André Marcon, ce faiseur de théâtre, c'est pratiquement un monologue d'1h50.
J'ai l'impression d'être un pianiste qui couvre le piano, les touches de haut en bas, de bas en haut pendant 1h50, c'est sans non-stop. Il faut une vélocité et une certaine virtuosité pour que cette parole trouve son sens. C'est l'Everest chaque fois, tous les soirs.
Et c'est une ascension réussie pour André Marcon, impeccable dans le rôle de ce misanthrope aigri.
Le faiseur de théâtre, c'est donc au Déjazet à Paris jusqu'au 9 mars, puis en tournée notamment en avril au Théâtre des Célestins de Lyon. Lui est une icône et il sera en vedette au prochain César, l'acteur américain Robert Redford, 82 ans, des dizaines de films, dont Jeremiah Johnson, mon préféré, Les Hommes du Président ou encore Out of Africa. Le fondateur du festival de Sundance recevra le César d'honneur à la 44e cérémonie des Césars. C'est le 22 février. Eux sont plus Robert que Redford, peut-être. Loïc Frapsos et Tristan Gratalon, merci messieurs tous les deux. Aux manettes des journaux de 13, 18 et 19 heures de France Inter, ils me pardonneront.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Rien, c'est des bons gars.
Allez, merci beaucoup pour ce journal Sébastien Pauvre. Dans un instant, le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Un peu de pluie demain.
Et oui, grâce à la perturbation qui se trouve actuellement sur la façade ouest, demain matin, on la retrouvera de l'Aquitaine à la Normandie avec quelques chutes de neige possibles sur la Normandie, sur le Limousin également vers 400 mètres. Un peu de pluie verglaçante sur l'ouest du bassin parisien et le nord du centre. L'après-midi, ce temps va se décaler vers le nord de la Seine, le massif central avec quelques pluies éparses. Un petit peu de neige cette fois-ci pour la Picardie et puis sur les Ardennes et sur le nord-est en soirée. En attendant, dans l'est, ce sera agréable demain avec de belles éclaircies, juste quelques grisailles matinales. En Méditerranée, du soleil, un bémol quand même pour la Côte d'Azur, pour la Corse, on aura quelques averses. Des averses également de la Bretagne jusqu'au Pays de la Loire, puis jusqu'à l'Aquitaine l'après-midi.
Et un mot des températures?
Alors ce sera froid, souvent moins 6 à 0 degrés le matin, un peu plus tout de même vers l'océan. Et l'après-midi, 2 degrés à Lille et à Metz, 3 à Paris, 7 à Limoges et Grenoble, encore 11 degrés du côté de Nantes, Toulouse, Marseille ou alors 13 à Bastia.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.